Bonjour à tous, chers auditeurs fidèles de Radio Médecine Douce. Bienvenue dans mon émission Équilibre de vie. Alors aujourd'hui, me voilà à nouveau accompagné de Serge Boutboul. Serge, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, toujours un plaisir de partager avec toi. Alors, je rappelle qu'on vous a déjà entendu ensemble sur plusieurs émissions concernant les facultés psychiques. Et on a parlé tout un tas de sujets dont le magnétisme, la radiesthésie, l'énergie, la lumière. Mais aujourd'hui, nous allons parler ensemble des origines de nos blocages. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Le petit sommaire de ce que nous allons parler et développer, c'est la reproduction toujours des mêmes schémas dans notre vie, ce que l'on dégage dans nos corps subtils, pas physiquement, mais dans l'invisible. C'est discerner aussi l'authenticité de notre ressenti et parler aussi des pièges du mental négatif. Et comment un regard faussé peut-il nous tirer vers le bas? Et pourquoi certaines personnes choisissent le chemin négatif plutôt que le chemin de la lumière? Et aussi comment discerner si nous sommes sur notre chemin de vie, notre chemin spirituel, voilà, avec quelques clés. On va commencer ensemble donc par ce pourquoi évidemment on reproduit toujours les mêmes schémas. Là, il y a des gens qui peuvent nous dire en introduction, oui, moi je me souviens, on est venu me voir, j'en ai marre, Emmanuel, qu'est-ce que je peux faire? Il se passe toujours la même chose, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait autre chose, j'ai fait tout un tas de techniques, je suis allé voir des médecins, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais je sais pas pourquoi, mais il m'arrive toujours les mêmes galères, tomber sur le même type d'homme. Pourquoi, comment? Alors le point commun, on a vu que c'est toujours la même personne. Donc, alors évidemment, c'est pas dans le corps physique ni physiologique, mais c'est bien au-delà. Serge, donc sur, et bien sûr, dans ce fameux corps subtil, desquels est-il? Comment ça peut fonctionner? Est-ce que tu aurais quelques clés à nous donner sur ce sujet?
Alors, il me paraît important d'être vrai dans ce domaine-là, de chercher réellement les causes des problèmes et pas de les fuir, pas de les contourner. Malheureusement, dans notre société, nous avons deux poubelles majeures. L'une qui est au niveau, ce que j'appellerais au niveau un petit peu médical, quand un médecin ne sait pas trop, ne trouve pas un diagnostic, eh bien, on va dire c'est psychologique. Donc, on a cette poubelle qui en psychologique ou psychosomatique. Donc, le problème est dégagé un petit peu en corner sur le côté. Et dans le domaine spirituel ou même dans le domaine ésotérique, nous avons une deuxième poubelle qui est quand la personne ne sait pas, elle va dire ben c'est karmique. Voilà, on a la poubelle qui est psychologique ou la poubelle karmique. Malgré tout,
c'est important à retenir.
Beaucoup de gens se retrouvent après avoir vu quelqu'un qui n'a pas pu résoudre leur problème ou son problème. Avec ce truc-là, ben, votre problème est karmique, ma petite dame.
Donc, si c'est donc, psychologique et karmique, la personne, elle est foutue.
Ah là, elle est foutue. Elle est obligée de rentrer chez elle avec ça sous le bras et elle doit attendre. Alors, ce qui est surtout important, c'est cela. C'est que, qu'est-ce que le karma? Ce serait intéressant de le définir pour comprendre un petit peu ce vers quoi nous allons, comment fonctionnent les choses. Le karma est ce que l'on appelle une loi, et en sanskrit, ça veut dire action-réaction. Voilà ce que veut dire le mot karma. C'est-à-dire que ce que je sème, je vais le récolter. Hein, comme dit le prophète Osée, qui sème le vent récolte la tempête. Hein, tout le monde connaît un petit peu cette phrase. Je veux simplement préciser par rapport à cela, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'un karma négatif dont tout le monde parle, il y a aussi le karma positif. Le problème qu'il y a, c'est que nous pouvons comparer le karma à ce que l'on appelle aujourd'hui communément un surendettement. Imaginons que nous sommes surendettés et que nous devons, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 2000 euros à quelqu'un ou à une banque, à notre banque. Eh bien, tant que nous n'avons pas remboursé ces 2000 euros, nous ne pouvons pas emprunter à nouveau pour acquérir d'autres biens, par exemple. Voilà. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Il faut payer ce que nous devons ou passer cette période de karma négatif pour que d'autres possibilités, d'autres potentiels s'ouvrent et être à nouveau dans l'abondance. Voilà, on n'est pas là, les choses qui sont négatives doivent à un certain moment passer. Et la problématique clé, c'est celle-ci, c'est que les gens sont convaincus, à force qu'on le leur ait répété, qu'ils ont un karma négatif. En réalité, quand nous avançons sur un chemin authentique, eh bien, nous avons eu un certain temps de nettoyage et le karma n'a plus lieu d'être. ce qui a lieu d'être après, ce sont les empreintes du karma. C'est-à-dire qu'à force de s'être répété, peut-être parfois à travers plusieurs incarnations, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ou c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, eh bien le subconscient s'imprègne de cela. Et même si on est passé du négatif au positif, alors bien sûr, vous allez me dire, à quel moment on va savoir que l'on est passé? Eh bien, il n'y a aucun moment, aucun moyen de savoir. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout bête. Est-ce que quand si quelqu'un est passé en karma positif, est-ce qu'il y a eu un avertissement le 12 mai 98, par exemple, que à 15h, il est passé en karma positif? Rien ne lui a dit qu'il est passé en karma positif. Alors comment il va repérer qu'il n'est plus dans le karma négatif? Eh bien, il n'y a pas de signe qui va montrer qu'il est passé en positif. Donc, dans sa tête, il est toujours en karma négatif. C'est-à-dire qu'il se dit dans sa tête, inconsciemment, en général, que quel que soit ce qu'il va faire, ça ne va pas marcher. Ça va foirer, ça ne va pas marcher, ça va coincer, comme d'habitude. Voilà. Et là, c'est l'esprit qui reprend le relais. On est tellement convaincu que ça ne marchera pas, que, effectivement, ça ne va pas marcher, bien sûr. Mais ce n'est plus le karma. Alors, comment va-t-on faire pour discerner ce genre de choses, que c'est une empreinte du karma, c'est-à-dire une imprégnation de cette chose qui est restée pendant longtemps sur nous et que nous avons dépassée? Eh bien, quand vous allez faire une demande, eh bien, demandez les choses avec confiance. Si la chose tombe et que ça arrive, c'est qu'on est passé en mode positif.
Il y a déjà peut-être une base, il faut que la personne, je pense, si tu es d'accord, qu'elle passe d'abord par l'acceptation de sa situation, et qu'elle prenne conscience. Déjà, concrètement, ensuite, à partir de là, comme tu dis, on commence à faire le ménage.
Oui, totalement. Il faut accepter.
Il faut accepter. La base, c'est.
Totalement. Il est important d'accepter sa situation, parce que si on n'accepte pas sa situation, ça bloque tout, en fait. Souvent, j'ai entendu des gens se plaindre.
Pour lever les barrages, voilà. Le blocage, exactement.
Voilà. Alors, c'est la même chose avec la lumière et avec l'ombre. C'est-à-dire que si on ne voit que notre problème et on n'essaye pas de dire, bon, ok, on va passer parce que je dois le porter. Bon, je suis obligé de le porter. Si je ne regarde et que ce que j'ai à subir et que je suis en train de geindre en permanence, eh bien, vibratoirement, mais je rends même mon poids plus lourd. Donc, la problématique va devenir encore plus dense que ça. Et souvent, je pense à ce que dit Épictète, il dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qui portent sur les choses. » Et je pense à Stéphane Hercurvey qui dit « Ce n'est pas le problème qui est vraiment le problème, c'est l'image que nous avons du problème. » Effectivement, quand on a un problème avec quelqu'un, par exemple, on va parfois amplifier ce problème-là, on va le densifier, on va le sublimer quelque part. Et là, ça va être terrible. Et je pense...
Hein, la solution de cette chose-là, c'est plus on va être dans l'authenticité, plus les choses vont se transformer.
Totalement, totalement. Donc, plus on va avancer, plus on va se dire, bon, à un certain moment, le fait d'avancer vers le vrai, eh bien, à un certain moment, donc, puisque ça va faire passer plus rapidement les choses négatives, puisqu'on est en train de nettoyer son karma, nettoyer ses factures anciennes, à un certain moment, les choses vont passer. Si on est en train de geindre et tout, en train d'être dans le négatif, on va continuer notre karma, on va en rajouter, puisqu'on est encore sur l'ancien schéma. Donc, il faut...
Première chose à faire, modifier son système de pensée.
Totalement.
Et donc, de visualisation.
La problématique qu'il y a, c'est que le mental est terrible. Le mental...
Alors, on va le voir après. Le mental... Enfin, on peut l'introduire maintenant, puisqu'on en avait parlé en introduction.
Mais c'est notre principal adversaire. Il faut le dire, c'est lui qui nous empêche d'avancer.
Alors, les pièges du mental négatif.
Alors, les pièges du mental négatif, c'est lui qui nous empêche d'atteindre notre partie spirituelle. C'est vraiment le mental qui est l'obstacle à notre perception des mondes. Si nous traversons le mental, c'est-à-dire que nous passons à travers les voies du mental, eh bien, les mondes nous sont ouverts. On va commencer à percevoir des choses autres, mais... Le mental, qu'est-ce que c'est le mental? Alors, attention, nous ne parlons pas du mental positif qui est nécessaire pour conduire sa voiture. On ne conduit pas à l'intuition, bien sûr, sinon ça ne va pas aller très loin. Donc, bien sûr, le mental dans son pôle positif est très important. Le mental dans son pôle négatif ressemble plus à un vieux garçon qui a beaucoup de vieilles habitudes et qui ne veut surtout pas mourir. Donc, il va, dès qu'on va essayer de méditer pour essayer de se poser, il croit qu'il va mourir. Donc, il va tout faire pour nous empêcher de méditer. Donc il va nous dire, tiens, tu devrais passer un coup de fil à un tel, tiens, non, tiens, t'as pas rangé ça, tiens, tu devrais faire ci, oh, mais tiens, tu as oublié de remettre ça à cette personne. Il va trouver mille excuses pour que nous ne méditions pas. Et à ce moment-là, on va voir que c'est viscéral en lui, il ne supporte pas que l'on médite. Et quand nous allons commencer à méditer, il va même se débattre. Et c'est là où on voit que la méditation, Rajneesh, il dit « méditation is a fight ». C'est-à-dire la méditation est un combat, mais surtout au départ. C'est-à-dire que le mental a peur de mourir. Il est convaincu qu'il est en train de mourir parce qu'on est en train de le faire taire. Il va se débattre et à ce moment-là, il va y avoir un flot de pensées monstrueux qui va arriver et qui va nous empêcher de nous poser. Et là, il faut travailler. C'est au début de la méditation qu'il faut s'accrocher, parce qu'après, ça va être beaucoup plus facile. Là, on va rentrer dans un état de paix intérieure, mais avant d'atteindre cette paix, ce rivage, il va falloir affronter ce mental qui se débat dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est principalement cela le problème.
C'est ça qui peut nous tirer vers le bas, alors.
Totalement.
Ce fameux regard faussé que nous avons sur nous. Qui nous tire vers le bas, dont tu parles.
Alors, ce qui est important aussi, nous dit ce même Rajneesh, qui était quand même malgré tout, même s'il n'a pas toujours été un exemple au niveau de sa vie, malgré tout, il a beaucoup de clés au niveau méditation.
Alors, justement, une clé qu'on peut retrouver aussi dans ton ouvrage, je le rappelle, Serge Boudboul, aux éditions Exergue, chez Très Daniel, donc comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, et donc une clé qui permet donc d'éviter ce tirage vers le bas, des pièges de ce mental négatif dont tu parlais à l'instant.
Alors il dit pour le cas, donc Rajneesh, il dit si vous observez les choses, vous observez votre vie comme si vous êtes simplement le regard de l'observateur extérieur, eh bien 95% de vos soucis perdent de leur densité.
De l'hélicoptère, quoi.
Voilà. Voilà, on regarde les choses avec du recul, et vous voyez, si nous sommes en voiture et que quelqu'un nous fait une queue de poisson, immédiatement on a viscérale qui va bouillir d'un coup, et on se dit, bon, pourquoi je me mets en colère?
Ça sert énormément.
Voilà. Et parfois, le simple fait de revoir cela avec ce recul, voilà. L'autre chose qui peut nous aider, qui est très importante, que j'appellerais le lâcher prise, est une chose presque impossible à réaliser en Occident. Pourquoi ? Parce que il est difficile de lâcher prise sur tout ce que nous aimons. Je dis ce que nous aimons et ceux que nous aimons. Pourquoi ? Parce que quand nous avons des enfants, on ne peut pas lâcher prise sur nos enfants. Parce qu'on les aime. Quand on a un compagnon, on l'aime. Quand on a une compagne, on l'aime. On ne peut pas lâcher prise sur l'autre. Donc, pour nous, le lâcher prise tel qu'on l'entend, c'est pour cela qu'il y a énormément de livres qui sortent les uns derrière les autres. Et pourquoi ça semble ne pas marcher, puisqu'il y a des nouveaux tirages sans arrêt de nouveaux livres, c'est que ça ne s'adapte pas à notre situation. C'est-à-dire que si nous sommes un moine au fin fond d'une cellule en Himalaya, dans l'Himalaya, bon, même si la moitié de la Terre s'effondre, bon, si on n'est pas dans la compassion, c'est pas trop grave. Par contre, si on a des enfants et qu'il y a un problème avec l'un des enfants, ben, ça va nous causer soucis. Et vous voyez, cette adaptation par rapport à la vie, elle est difficile. Le matin, nous ne pouvons pas être en retard parce qu'on va être, on va risquer, on risque de perdre son emploi. Lâcher prise là-dessus est difficile. Et donc, on est obligé d'être sur Terre. On a une famille, on a des enfants, on doit assumer le commun, on doit assumer le matériel. Donc, ce qui va être surtout important, c'est de vivre ce lâcher prise en revisitant. Et j'étais très content de recevoir cette clé. En revisitant notre vie et notre incarnation comme si on est un esprit habitant un corps. En revisitant chaque chose, c'est-à-dire au vu de l'esprit qui habite notre corps, en disant, ben voilà, j'ai eu des parents qui ont été mes formateurs, même s'ils n'ont pas toujours été comme j'aurais rêvé d'être accueilli ou aimé. Bon, ils ont été formateurs, ils ont été mes professeurs, ils ont été les meilleurs des professeurs, même si parfois ça n'a pas été facile. Ça peut être aussi bien d'autres choses par rapport à notre vie, des choses pour lesquelles, ben, si on est un esprit habitant un corps, on sait qu'à un certain moment, le corps, on va le laisser comme un manteau. Eh bien, c'est comme à un certain moment, l'attrait de la voiture, ben, on va la laisser à sa place, sachant que dans les plans supérieurs, on n'a plus besoin de voiture, puisqu'il suffit de penser à quelqu'un, et on est tout de suite téléporté sur place. Et donc, on va commencer à prendre du recul vis-à-vis des choses, en disant, mais si on regarde bien, même si nous sommes propriétaires, nous ne sommes propriétaires que par procuration, nous sommes en réalité emprunteurs. Emprunteurs de quoi ? Mais de tout. de la maison que nous possédons, du corps que nous possédons, de la voiture que nous possédons, etc., etc., etc. Donc même tout ce qui semble être à nous n'est qu'un prêt, on ne fait que l'emprunter pour un certain temps. Et ces choses-là vont passer. Donc en regardant les choses de cette façon-là, on va recentrer le débat autrement et les choses vont être beaucoup plus centrées sur le vrai. C'est-à-dire avant d'être là, nous étions ailleurs et se préparer à là où nous allons aller après.
Alors, on reprécise bien, c'est bien l'Occident. Hein,
parce que... Oui, l'Occident, voilà. bien sûr. Alors, ouais. Effectivement, il y a deux pôles. Hein. En Occident, on a plus, sur l'axe général, on a plus laissé prédominer le cœur. Hein. Donc, tout a été plus vers le cœur, l'esprit passant en deuxième. En Orient, on a été plus sur l'esprit, le cœur passant en deuxième. Alors, attention, bien sûr, il y a des traditions qui sont totalement dans le, que pour le
c'est
cœur,
bon
bien
de
sûr.
Rappeler,
hein,
c'est bon
voilà.
De rappeler.
Mais disons que les pôles principaux sont là, en fait. Voilà. Mais en Occident, on a plus un petit peu mis de côté l'esprit. Donc, la maîtrise du mental n'est pas trop une valeur occidentale, il faut le dire.
Ce qui amène à comprendre pourquoi certaines personnes choisissent plutôt le chemin négatif plutôt que le chemin de la lumière, via ce que tu viens... développer.
Alors, le problème de la personne ne choisit pas en conscience le chemin négatif.
Voilà, c'est bien
elle
ça,
ne
c'est
le fait pas,
au-delà.
Voilà, elle ne choisit pas réellement ça en disant je choisis le bas pour le bas. Elle va choisir
c'est
l'orgueil.
C'est bien de développer,
oui,
d'expliquer
totalement.
Qu'il y a des gens, bon, bah, ils sont dans un schéma, on peut dire ça comme ça, négatif ou positif, puis il y a des gens, on peut beau leur expliquer, les sensibiliser, ben, ça passe pas, ils restent
oui,
sur leur
rail. Oui, totalement.
Hein, c'est ça, donc c'est ce choix-là, ben, c'est ce choix de chemin. Parce qu'on va parler du chemin de vie, de discerner le bon chemin ensemble.
Alors là, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est celle-ci, le chemin de la lumière ou de l'ombre. Donc déjà, c'est un choix. Alors souvent, la personne ne va pas choisir, comme je disais.
Donc, on n'a pas un choix conscient, c'est un autre choix.
Un choix conscient. Elle va plutôt choisir la revalorisation.
Ou ailleurs, on ne se mélange pas.
Voilà. Disons que la personne n'est pas consciente de
voilà.
son choix. Elle ne va pas choisir l'ombre. Hein. Elle va choisir d'être valorisée. Elle va choisir l'orgueil, au dépens même de la lumière. C'est-à-dire que il y a parfois des médiums qui, pour se faire revaloriser, eh bien, elles préfèrent faire passer une petite déviation quelque part pour récupérer la personne à sa botte. Et ça, on a cela malgré tout un petit peu partout. Ça s'appelle de la manipulation. Mais quand il s'agit de manipuler la lumière pour récupérer l'autre, c'est l'ombre quand même à un certain niveau. Par contre...
c'est bon de le préciser.
Voilà. L'autre chose, c'est que la vie pourrait être plus légère pour certains à partir du moment où on choisit le regard le plus facile. Alors, qu'est-ce que c'est le regard le plus facile? C'est quand nous avons un verre qui est à moitié rempli. Certaines personnes vont le voir le demi-verre vide, d'autres vont voir le demi-verre plein. Alors c'est un choix de vie, mais quel est le plus facile? C'est la vie en rose ou la vie en noir? Alors pour moi, puisque la vie doit être vécue, autant choisir le plus facile. Donc je préférerais la vie en rose, ça c'est mon choix. Mais bon, après il y a des personnes qui ne voient que les choses sombres. En pensant comme cela, elles s'attirent elles-mêmes vers elles, par résonance, les négativités. Et là, c'est pas bon, parce que si elle n'avait pas eu ce regard des choses, eh bien, beaucoup de choses qui les entourent ne devraient même pas être là. À force d'être dans une résonance négative, petit à petit, on attire toutes ces fréquences sombres, et à un certain moment, il y a un agglomérat qui est sur nous, et qui nous piège monstrueusement, quoi. Voilà.
Afin donc, on peut peut-être faire changer de chemin ce genre de personnes, en passant par ce qu'on a dit avant, l'acceptation, le pardon. Et après, la prise de conscience.
Oui, totalement.
Ce sont les trois clés énormes. Est-ce que tu aurais une petite clé par rapport à ce domaine-là où on va enchaîner directement sur le chemin?
Une clé sur quoi, pardon?
Ben, une clé pour ce dont on parlait ensemble, sur le chemin négatif plutôt que le chemin de la lumière,
oui.
Pour essayer une ultime prise de conscience, on va dire, pour ces personnes, même si ces personnes ne sont pas forcément conscientes.
Alors, souvent,
s'il y a lieu, quand même.
Souvent, bien des amertumes viennent de notre antériorité par rapport à nos parents, quels que soient les parents. Bien des amertumes, bien des blessures de vie, bien des orgueils qui sont là, bien des besoins d'être importants, deviennent comme des puits sans fond que les gens n'arrivent pas à combler, que les gens n'arrivent pas à... Ils ont à travers cela un besoin d'être revalorisés, mais au lieu d'être... Bon, on a tous besoin d'être importants, c'est classique, c'est normal, ce n'est pas du nombrilisme. Mais malgré tout, il est important, il est nécessaire d'accepter un fait, c'est que nos parents ne sont que ce qu'ils peuvent, hein. Et ils nous ont donné l'amour qu'ils ont pu à leur degré, même si ce n'était pas forcément le degré que nous avons. Alors, c'est important de l'accepter. Pourquoi ? Parce que si je l'accepte, je vais colmater une brèche, parce qu'il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas à colmater cette brèche.
Je vais compliquer la donne, pardonne-moi. Imaginons que la personne n'a plus de parents, ou au pire, la personne vient de ce qu'on appelle la DAS anonyme. Que peut-il, pour ce genre de personnes, où certains auditeurs peuvent peut-être se reconnaître, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Est-ce qu'on peut leur donner une clé?
Bien sûr. C'est important de savoir une chose. C'est que...
Est-ce qu'on passe déjà par l'acceptation de pardon, par ces choses, ces moyens-là, afin de pouvoir rentrer, essayer de rentrer dans la lumière, une première porte d'entrée dans la lumière?
Alors, la chose qui est importante, c'est de savoir, et parfois, il y a des connaissances, ça veut dire naître avec, qui sont importantes à avoir. Et ça, c'est fondamental. Une des choses qui est importante, c'est nous ne sommes jamais seuls. On peut le croire, on peut le penser, quand on regarde dans les mondes subtils, il y a du monde. De plus, on n'est pas seul parce que nous avons tous au moins un guide spirituel et un ange gardien au minimum. On a toujours été aimé.
Alors programmez-vous à être accompagné.
Voilà, il est important de prendre conscience que nous baignons dans l'amour, que l'herbe sur laquelle nous marchons et que nous ne regardons pas est à notre disposition pour qu'on puisse admirer la création qui est mise à notre disposition. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une personne qui a vécu une NDE, je crois que c'était un homme, et qui, une NDE, une expérience de mort imminente, et qui est allée dans le canal de lumière, et quand elle est revenue, dans sa chambre d'hôpital, elle a vu une fleur.
Mais c'est toujours les mêmes symboles que les gens voient.
On lit dans
les différents ouvrages du NDE.
Voilà. Et donc, effectivement, quand cette personne a vu la fleur, elle s'est mise à pleurer, en se disant, mais qu'est-ce que c'est beau, je n'avais pas vu. Et combien de personnes qui ont vécu de NDE, quand elles reviennent sur Terre, elles se disent, mais bon sang, je n'avais pas vu comme quoi tout était beau. Donc parfois, il y a besoin d'être remis un petit peu, rectifié pour se dire, oh, bon sang, mais je passe à côté de tout ça et je ne regarde même pas, je ne profite même pas.
Ce n'est qu'un exemple, hein. Faut pas refaire ça chez soi et obligé d'avoir une NDE pour faire une prise de conscience.
Non, bien sûr.
Il y a d'autres choses.
Mais la vie est aussi faite pour être vécue et elle est belle aussi, la vie. La vie a des beautés que nous n'aurons pas forcément, on n'aura pas forcément tous les avantages que nous avons eus dans cette vie, même dans les plans supérieurs. Donc il est important de bien vivre cela. Et je vois par exemple ce que je disais en cours il n'y a pas très longtemps. J'ai eu en conférence une personne qui m'a dit, Monsieur Boutboul, moi ce que je vois c'est ce qui compte pour moi c'est la vie spirituelle, le reste je n'en ai rien à faire. Ce qui compte, la vie terrestre, voilà. Et je lui ai répondu, Madame, vous allez beaucoup pleurer quand vous allez passer sur l'autre plan. Pourquoi ? Parce que la vie est faite aussi pour être vécue. La vie est aussi faite pour être. On n'est là pas que pour les embêtements, on est là aussi pour vivre, pour aimer, pour manger des frites, pour s'éclater aussi. Et pourquoi vous allez avoir du mal en passant sur l'autre plan ? C'est que vous allez voir des gens qui vont avoir une mission spirituelle aussi grande que la vôtre et qui malgré tout se seront éclatés sur Terre. Alors que vous avez tiré un trait là-dessus. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas que le côté négatif de la Terre qui est là. Il faut accepter les autres côtés. Et si on a envie de faire des choses, faisons-les, de manière à être dans la joie. Et la joie, c'est le but du chemin spirituel, quand même.
Non, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même prendre énormément de recul. On pense pour des gens, j'ai vu un reportage, moi, où il y avait quelqu'un qui avait une très belle vie, puis qui s'est mis à voyager pour faire du commerce. Puis de ce commerce, il est passé en prison. Puis là, il a fait 3 années de prison, puis dans les pires prisons, puis on est ressorti. Alors, pourquoi, d'un seul coup, on arrive en prison et bien, pourquoi ce chemin-là? Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, hein, ce qui m'est venu, ça me fait penser, ce dont tu parles, ça me fait penser à cela. Donc, la vie vaut la peine d'être vécue, mais il y a des gens qui vont dire, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais bon, ce que j'ai, j'arrête pas de perdre des gens, des êtres aimés autour de moi. Alors, comment se détacher de tout ça et avoir vraiment... Et si, je pense qu'il y a un énorme travail intérieur peut-être à faire sur soi.
Pour ce qui est de la séparation des êtres aimés, il y a une chose qui est importante, c'est que ça ne dépend... Il y a des gens qui... Il y a cette expression qui était terrible, qui disait « Dieu m'a pris mon amour ou mon chéri ou ceci ou cela. » Dieu ne prend rien. Il faut bien entendre cette chose-là qui est très importante. Dieu ne prend rien. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Alors, certains d'entre nous, nous sommes venus pour 60 ans, d'autres sont venus pour 90 ans, d'autres sont venus pour 120 ans. Chacun vient pour le temps qu'il est venu sur Terre. C'est très important, ce point-là. Et donc, là j'ai un exemple d'un cas vis-à-vis de Monsieur Philippe, le maître Philippe de Lyon, qui est extraordinaire, qui explique bien cela. Vous voyez, je vais vous juste l'expliquer
c'est
si c'est possible.
Un grand guérisseur.
Hein, voilà, ouais. Un grand guérisseur, le maître Philippe de Lyon, qui est de 1849-1905. Et en fait, un jour, je prends souvent cet exemple parce que il explique beaucoup de choses. Monsieur Philippe, donc il y a un des disciples de Monsieur Philippe qui vient le voir et qui lui dit: Monsieur Philippe, cette nuit même, il va y avoir une dame qui va perdre dans la nuit son propre mari et son propre fils. Et Monsieur Philippe de dire, donc de se brancher, de dire après à son disciple, de lui dire: le mari, c'est l'heure, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, le fils, on peut reporter d'un an, pas plus. Après, il est attendu ailleurs, donc c'est pas possible. Et donc voilà, donc le jeune fier se remet, puisqu'il s'appelait comme ça. Et un an après, le disciple se repointe devant Monsieur Philippe en disant: Monsieur Philippe, le jeune fier se meurt. Donc voilà, à ce moment-là, on utilisait ces expressions-là. Et Monsieur Philippe va au chevet du mourant. Il arrive au chevet du mourant, il se penche sur le mourant et lui dit, en lui montrant un coin du plafond, il lui dit: fier, tu vois ce que je te montre? Et le jeune fier dit de dire: oh, que c'est beau. Il lui dit: ben, c'est là où tu vas aller. Il lui dit: maintenant, fier, rends-moi ton âme. Et à ce moment-là, l'enfant s'endort dans un sourire. Vous voyez? Alors ça, c'est important parce que nous voyons bien que pour le cas du mari, c'était l'heure, il y avait pas, on ne pouvait pas reculer. Pour le cas du fils, on voit déjà que M. Philippe, c'est pas n'importe qui, parce que pour reculer une date de départ, il faut avoir toutes les conséquences, même dans l'invisible, en disant on ne peut pas reculer au-delà d'un an, parce qu'il est appelé ailleurs, parce que sinon, il va comme mourir là-bas. Vous voyez, c'est comme si on l'attend ailleurs et il ne vient pas. Et donc, il y a toute une organisation qui est là. Alors, c'est très important de bien comprendre que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas qu'il n'y a pas une organisation. Il y a cette phrase du Christ qui dit: chacun de nos cheveux est compté. Chacun de nos cheveux. Et pourtant, personne d'entre nous connaît aujourd'hui le nombre de ses cheveux. Sinon, je voudrais bien rencontrer la personne qui le sait. Et vous voyez, malgré tout, il y a une logistique dont nous ignorons totalement la structure qui a toujours été là, qui s'occupe de nos cheveux, de nos poils, de notre peau, de nos nerfs, et dont on ignore totalement l'existence. Et malgré tout, nous avons des gens qui se plaignent en disant: mais je suis toujours seul, il n'y a jamais personne autour de moi. Nous sommes sans arrêt entourés. Il suffit de lever le voile pour le voir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question.
Oui, parce que bon, ça c'était une partie, puis il y avait l'autre qui, où je voulais, ensemble, quand je te parlais de cet homme que j'ai vu sur le reportage, on ne naît pas pour être en prison.
Ah oui, oui. Alors, voilà. Disons que, oui, la problématique, elle est là. Effectivement, je pense souvent...
Il y en a qui ont des galères sur galères sur galères. Voilà. Alors bon, on a parlé des charges sur notre émission, il y a tout un tas de choses.
Ça. Alors, j'ai eu une demande d'un appel au secours pour une personne qui était SDF. Et je pense souvent cet exemple, parce que ça a été transcendant pour moi. C'était vraiment... c'est là où j'ai vu ce qu'était un mur. Et cette personne, donc, une gentille libraire qui me l'avait adressé, et donc elle me dit: voilà, cette dame, est-ce que vous pouvez l'aider et tout. Je me suis branché par rapport à son guide, et c'était un homme, et cet homme me dit, avant de l'appeler au téléphone, cette dame, et cet homme me dit: mais je ne peux rien faire, elle n'écoute rien. Je rappelle juste après cette dame, et je lui dis: mais vous savez que vous avez un guide qui vous aime? Et elle me répond avec presque de la hargne et vraiment de l'agressivité: je n'en ai rien à faire, pour être vraiment voilà, elle me l'a pas dit comme ça, elle a été vraiment très poliment, parce que là c'était avec une voix grailleuse et c'était un peu chaud quand même. Alors j'ai essayé d'arranger la chose, mais il n'y avait rien à faire, elle ne voulait rien entendre. En réalité, son guide et elle-même, le chemin spirituel n'est pas un chemin de douleur, c'est pas un chemin de souffrance. Comme dit Kate Byron, la souffrance est optionnelle. On ne vient pas sur Terre pour souffrir, pas du tout. On vient sur Terre pour aller sur le chemin de lumière et comprendre les leçons de cette vie, comprendre les leçons de la Terre. Alors, il y a un chemin qui est le chemin le plus droit qui mène à la lumière, mais si la personne va dans l'autre chemin, va dans le chemin inverse, et que sur le côté à 200 mètres, il y a une falaise et il y a une chute de 100 mètres, et que la personne le prend, le guide n'a pas prévu que la personne allait dans l'ombre et tomber de 100 mètres. C'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'est que la personne aille sur le chemin de lumière, mais elle est sortie du chemin, elle est partie dans des endroits où il n'y avait pas de chemin. Et alors, là, c'est embêtant, ça.
Alors, tu as introduit très bien notre dernière partie de l'émission, qui est comment discerner si nous sommes sur notre chemin.
Alors, si nous sommes sur notre chemin, effectivement, qu'est-ce qui va nous permettre de discerner que nous sommes sur notre chemin ? Quand nous sommes sur le chemin, nous devons grandir, nous devons voir mieux, nous devons percevoir avec beaucoup plus d'ampleur, nous devons être de mieux en mieux à l'intérieur de nous-mêmes.
En toute simplicité, on peut dire fluide, quelque chose soit
oui,
plus fluide.
Les choses sont totalement
vie,
naturelles,
professionnelle, sentimentale.
Ça tombe, ça coule, il y a l'abondance. On est dans l'abondance, on avance, voilà, les blocages se débloquent, les choses, comme s'il y avait des petites lampiotes sur les côtés qui disent, oui, c'était sur la bonne aire d'envol. Alors que dans le chemin inverse, on arrive sur des impasses. Ça se referme, c'est quand même plus ombré, il y a des avertissements, on commence à moins entendre son intuition, ça se bloque de plus en plus. Alors quand on arrive à ça, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au stade de SDF pour se dire je suis dans le mauvais côté. Quoi.
Il y a des situations qui se répercutent,
voilà. Alors,
des mêmes schémas,
voilà,
des mêmes choses.
Alors si les personnes qui se trouvent dans des situations de difficiles avaient fait attention aux signes, parfois leur corps qui leur dit « Attends, ça va pas ». Des clignotements, par exemple. Parfois, avant qu'il y ait une maladie, il y a des avertissements. Le corps dit « Arrête, arrête, arrête de boire de l'alcool ». Ou le corps qui fait des signes ou quoi. Ou par exemple, même des signes de vie où on a des avertissements, où on a des flashs, on le sait, on est
des
averti.
Pourquoi
et la personne y va quand même. Là-haut, il ne peut plus rien faire quand la personne va dans le mur. Après, voilà. Après, pourquoi la personne fait cela ? Mais c'est son choix. Et là-haut, il faut se rappeler une chose, c'est très important, nous sommes des êtres libres. Libres avec tout ce que cela veut dire. Une liberté totale, c'est-à-dire la liberté peut même aller jusqu'à la personne qui devient serial killer, c'est-à-dire un assassin en série. Ça va jusque-là, la liberté. Parce que si on avait le choix entre, bon, Serge, tu fais le bien ou tu fais le bien, bon, ben, le choix serait un peu moyen. Non, nous avons vraiment le choix entre le bien et le mal dans tous les sens du terme. Et là, certains choisissent pas forcément le bon choix et reviennent sur des choses qui ne devraient pas, qui ont été déjà dépassées dans d'autres vies pour la personne. Par exemple, à moins qu'elle ait quelque chose à vivre. Alors, tout n'est pas forcément facile à discerner, mais disons que notre chemin est un chemin qui doit mener à la lumière et on ne descend pas sur terre pour se payer des coups de bâton. Non, non, non.
D'accord, donc quelques petites clés qu'on a vues, c'est à travers ce que l'on vit au quotidien, les rencontres, les événements, les mots, les situations rencontrées, les schémas, les blocages, si les choses ne sont pas forcément fluides.
Voilà, on doit repérer.
Par des repères, un maximum de repères.
Voilà. Alors dans le deuxième livre, j'en parle, comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, comment repérer des signes que l'on n'est pas sur le bon chemin forcément. Voilà. Il faut savoir que le chemin apparaît en adéquation avec ce que nous sommes. C'est-à-dire que même notre mission spirituelle va grandir en adéquation avec notre grandissement intérieur. Si j'avance et que d'un seul coup j'ouvre ma clairvoyance, et j'ouvre ma clairaudience et mon intuition, eh bien, il est probable que l'on me demande d'aider mieux les autres, de mieux les guider. Mais si j'aide les autres, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, mon chemin va être aplani sur certains points. Et donc, il y a cet échange avec les plans subtils supérieurs qui vont faire que ben, mon chemin va s'ouvrir, je vais aider les autres, je vais faire du bien, ça va me faire du bien, ça va m'amener la paix, ça va guérir des gens, ça va transformer des vies. Et c'est cela la spirale montante. Voilà, et on est vers cela. Si par contre, on va dans le chemin inverse en disant je préfère l'ombre, la revalorisation, je suis supérieur aux autres et tout, c'est pas la même chose. Sur le chemin spirituel, les points à travailler, c'est-à-dire que nous devons travailler sur enlever un petit peu notre moi, cette revalorisation que nous avons à outrance, en disant je vais montrer à tout le monde que je suis quelqu'un et qu'ils vont voir que ils vont tous voir que je suis supérieur aux autres. Et ça, dans le chemin spirituel, ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que nous, quand nous arriverons sur le plan supérieur, nous serons tous égaux. Donc le fait de se prendre pour quelqu'un qui est au-dessus de ce qu'il est, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça n'a pas de réalité. Et quand nous serons là-haut, dans les plans supérieurs, ça sera un petit peu une ombre que nous porterons de ce que nous avons fait précédemment. Voilà. Les choses sont très simples, on est tous au même niveau, même si sur le chemin il y en a des plus avancés, mais les plus avancés sont là pour montrer au moins avancé le chemin. Il n'y a pas de maître, il y a des personnes qui sont plus ou moins avancées sur le chemin, voilà.
Bah écoute, c'est très bien. Donc, si les gens veulent s'aider eux-mêmes ou aider les autres, bah, tout ça, ça s'apprend. Tu animes donc des ateliers. Tous les renseignements sont sur ton site internet sergeboudboul.com. Eh bien, j'étais très heureux qu'on soit ensemble une nouvelle fois et au plaisir de vous retrouver, chers auditeurs,
tout prochainement. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.